conquête spatiale, c'est l'homme qui relève les plus grands défis, l'homme à la conquête de ses rêves et de son ingéniosité, pardon. Mais c'est aussi l'histoire de la guerre froide entre deux grandes puissances. Et qui mieux que Jacques Villain pourrait nous en parler ? Ingénieur de l'astronautique, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, pardon. Conseiller pour les affaires spatiales du groupe Safran, c'est aussi un historien confirmé qui sait mettre en perspective le génie humain et la politique, mais aussi les progrès nécessaires dont nous profitons aujourd'hui dans notre quotidien. Jacques Villain, merci.
Eh bien, merci beaucoup pour ces paroles. Je crois que celui-là doit marcher, hein, pour ces paroles fort aimables. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet qui, moi, m'occupe depuis plus de 40 ans. En fait, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais destiné à construire des sous-marins nucléaires. Et je suis sorti de l'école le 16 juillet 1969, et ce jour-là décollé de Cap Canaveral, la mission Apollo 11, avec à son bord Armstrong, Aldrin et Collins. Et là, j'ai compris que je ne ferai jamais de sous-marin nucléaire, mais que je ferai plutôt des fusées. Donc, depuis ce temps-là, eh bien, je baigne dans les fusées et dans l'espace. Et comme vous le savez, le 4 octobre dernier, 4 octobre 2007, c'était le 50e anniversaire du lancement du Spoutnik. Alors, moins jeune d'entre nous, ça rappelle quelque chose. Et ben 50 ans, je crois que c'est pas mal pour essayer de regarder un peu dans le rétroviseur ce que nous a apporté cette conquête de l'espace. Et alors c'est ce que je vous propose ce soir. Et puis, on parlera aussi un petit peu de futur, parce que c'est bien d'être historien, mais il est important que l'histoire apporte sa contribution à la perspective, c'est-à-dire au défrichement des routes que nous allons emprunter dans les années qui viennent. Donc, deux parties. Une première partie sur les 50 ans que nous venons de vivre, ce que nous ont apporté les satellites, la conquête de l'espace. Et puis, un petit peu après, eh bien, nous verrons le futur. Donc, 4 octobre 1957, je dirais que c'est une convention, nous faisons partie la conquête de l'espace de cette date-là. Et en ce vendredi 5 octobre 1957, eh bien, l'humanité entend un bip-bip, non pas à la télévision, moi je me souviens c'était à la radio, hein, il y avait plus de radio que de télévision à cette époque, et ce bip-bip était annonciateur de la première satellisation d'un objet par l'homme. Et cet objet, vous l'avez devant les yeux, à gauche, c'est une sphère de 58 cm, de 83 kg. Bon, à l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose, il y avait simplement deux émetteurs, un émetteur qui diffusait un bip, et l'autre émetteur qui diffusait aussi un bip, mais avec des fréquences décalées. Et ce bip-bip, eh bien, faisait savoir au monde entier que, pour la première fois, l'homme sortait de la Terre. Alors, cet événement a été rendu possible parce que, eh bien, nous avions été capables de mettre au point une fusée suffisamment puissante. Je dis suffisamment puissante parce que pour lancer un satellite, il faut savoir vaincre la gravité terrestre, ces fameux 9,8 ou 9,80 mètres par seconde carré. Cette accélération qui détermine le poids des corps, et mais il a fallu une fusée de l'ordre de 270 tonnes. Et cette fusée, vous l'avez devant vous. Et je dirais, contre toute attente, ce ne sont pas les Américains qui ont gagné cette première course à l'espace, mais ce sont les Soviétiques. Et ça, il faut bien le dire, qu'on ne s'y attendait pas du tout. Il faut dire qu'à l'époque, on ne savait pas grand-chose du monde soviétique. Et on l'a découvert par la suite, les Soviétiques avaient mis les bouchées doubles depuis 1945 et donc avaient battu sur le fil les Américains. Alors d'ailleurs, dans quelques jours, le 31 janvier, eh bien les Américains fêteront le 50e anniversaire du lancement de leur propre satellite, c'est-à-dire quelques mois après le satellite Sputnik, qui est devenu d'ailleurs le nom des satellites en russe, et il signifie aussi compagnon. Donc voilà cette première date très importante. Et depuis 50 ans, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les différents pays qui se sont intéressés à cette conquête de l'espace ont mis sur orbite ou envoyé dans le système solaire ou dans l'univers. Plus de 5000 satellites sont des vaisseaux spatiaux. Et ces vaisseaux spatiaux ont été mis en orbite par 9 pays. Alors, dans l'ordre, Union soviétique, bien évidemment, États-Unis, France, Chine, Japon, Grande-Bretagne, Inde, non, Europe, Inde, Israël. Israël est le dernier, en 88. Hein, donc 9 pays. Donc c'est le club des pays qui sont dans, enfin le club de l'espace, on peut appeler ça comme ça. Et dans ce club, il y a un sous-club. Les pays qui ont été capables d'envoyer par leurs propres moyens des hommes dans l'espace. Alors, vous vous souvenez, on en parlera un peu tout à l'heure, le premier pays qui a envoyé un homme, c'est l'Union soviétique, avec Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Ensuite, les États-Unis d'Amérique. Et le troisième pays, c'est pas vieux, ça date de 2003, c'est la Chine populaire. Donc, seuls trois pays ont été capables, ou ont voulu, parce que aussi ça résultait d'une volonté politique, ont voulu mettre leurs propres spationautes sur orbite. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a déployé une activité aussi intense pendant ces 50 ans? Eh bien, il y a 4 ou 5 bonnes raisons. La première, c'est évidemment ce qu'on souhaitait faire depuis Galilée. On a fêté l'anniversaire de Galilée, là, il y a quelques jours, hein, 400 ans. C'était donc avec les satellites de permettre d'améliorer la connaissance du système solaire et de l'univers. Premier point. Deuxième point, qui était moins évident au début des années 60, c'est par l'espace d'améliorer la vie quotidienne des hommes. Et ça, j'en parlerai longuement tout à l'heure, c'est un sujet auquel je tiens beaucoup. En d'autres termes, l'espace s'est tourné vers la Terre. L'espace ne s'est pas tourné uniquement vers l'espace, vers l'infini, il s'est aussi tourné vers la Terre. Les satellites se sont tournés vers la Terre et jouent un rôle très important. Troisième raison, surveiller cette Terre. Et aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, d'environnement, vous allez voir que les satellites apportent des choses tout à fait étonnantes. Les militaires, eux aussi, se sont engouffrés dans la brèche parce que les satellites leur apportent un certain nombre de choses. On verra ça aussi tout à l'heure. Et puis en fait, cinquième point, de permettre à l'homme d'explorer lui-même l'espace. Ça, c'est un vieux rêve qui date de près de 2000 ans, on verra tout de suite. Donc, je vous propose de faire le bilan dans chacun de ces domaines et puis de répondre à une question qu'on me pose, j'allais dire, tous les trois jours. Combien ça coûte tout ça? Donc, nous sommes tous des contribuables, je vous apporterai la réponse. Voilà. Alors, écoutez, nous allons partir dans ce bilan et tout d'abord essayer de comprendre les raisons pour lesquelles, à partir de 1957, on est parti dans cette conquête de l'espace. Alors, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure, ça ne date pas de 1957. En fait, les premiers écrits sur la conquête de l'espace datent de 160 après Jésus-Christ. Deuxième siècle après Jésus-Christ. Et entre le deuxième siècle et le début du XXe siècle, on dénombre pas moins de 300 romans, ouvrages, qui nous vantent les mérites des voyages de l'homme dans l'espace. Alors, je vous donnerai quelques points de repère. D'abord, les deux premiers romans de 160 après Jésus-Christ, écrits par un philosophe grec qui s'appelait Lucien de Samosate. Et l'un de ses romans, le premier, Lucien de Samosate nous dit qu'un soir, comme vous le savez, en Méditerranée, il y a un vent qui s'appelle le Meltem et qui se lève tous les soirs. Et ce soir-là, le vent était particulièrement violent et il y avait un bateau qui rentrait de Méditerranée et qui rentrait dans le port d'Antioche. Et le vent était tellement violent que le bateau s'est retrouvé dans une tempête et il atterrit sur la Lune. Donc la première fois que les hommes sont allés sur la Lune, c'est en bateau. Il faut le savoir, c'est étonnant, mais c'est comme ça. La deuxième fois, c'est quelques mois plus tard, lorsque Lucien de Samosat a écrit un second roman. Et là, il a utilisé un moyen qui paraît évident, c'est-à-dire qu'il a mis ses héros sur le dos des oiseaux, et ces oiseaux sont arrivés sur la Lune. C'est évident qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait... On pensait qu'il y avait de l'air entre la Terre et la Lune. Alors vous avez d'ailleurs ici une représentation qui date du XVIIe siècle, et on voit des oies sauvages donc, qui emportent dans, alors appelons ça l'espace, dans l'air en tout cas, un voyageur. Alors attendez, on a dû passer quelque chose. Voilà, j'ai oublié la photo de gauche qui n'est pas inintéressante, puisqu'elle a trait à un roman écrit par Cyrano de Bergerac, 1653. Alors, Cyrano de Bergerac, c'est quand même extraordinaire. À lui seul, il va inventer 9 moyens pour aller dans l'espace. Alors, je vous en citerai 3 qui me tiennent particulièrement à cœur, dont le premier que vous voyez sur cette gravure. Vous voyez que ce personnage qui va partir dans la Lune, il a autour de la taille des fioles. Eh bien, il a mis son réveil très tôt le matin pour aller dans les champs. Comme vous le savez, dans les champs, le matin très tôt, au lever du soleil, il y a de la rosée. Donc, il a récolté la rosée qu'il a mis dans ses fioles, cette rosée liquide. Et patiemment, il a attendu que le soleil se lève et que les rayons du soleil commencent à chauffer les fioles. Et la température aidant, eh bien, la rosée liquide s'est transformée en rosée vapeur. Et tout d'un coup, notre homme a quitté la Terre pour arriver sur la Lune. Elle n'est pas belle, la vie, hein? Vous voyez la poésie qu'il y a dans la conquête de l'espace? C'est extraordinaire. Deuxième moyen, un traîneau en fer. Eh oui, Cyrano de Bergerac met ses voyageurs sur un traîneau en fer. Chacun a sur les genoux un aimant. Et au signal donné, on jette l'aimant en avant et le traîneau en fer est attiré par l'aimant. Vous répétez l'opération pendant 384 000 km et vous arrivez sur la Lune. C'est même fantastique parce que vous prenez l'aimant, vous le jetez en arrière, vous pouvez faire des marches arrière, des créneaux, etc. C'est extraordinaire. Bon, on n'a pas essayé au XXe siècle de faire ça, mais peut-être qu'il faudra y songer. Et troisième moyen, alors là, on arrive près du week-end, là, samedi, vous pouvez acheter des os de bœuf. Vous cassez les os de bœuf et vous en récupérez la moelle. Et il paraît que la propriété de la moelle de bœuf, c'est d'être attiré par la Lune. Donc vous en enduisez le corps et vous verrez. Probablement que samedi dans la soirée, vous serez sur la Lune. Hein? Vous voyez, c'est extraordinaire, la conquête de l'espace. Alors, on ne peut pas faire ce rapide panorama sans arriver à 1865 et notre ami Jules Verne qui écrit De la Terre à la Lune et qui donc utilise un obus qu'il va mettre dans un grand canon de plus de 300 mètres de long. Il va mettre ses 3 voyageurs dans ce canon, on va tirer l'obus et les gens vont arriver autour de la Lune. Bon, alors comme vous le savez, cette idée de Jules Verne est complètement farfelue, c'est évident. Vous imaginez le choc au moment de l'allumage de la poudre. Les gens n'auraient pas survécu. Mais ce qui est fantastique dans Jules Verne, il n'y a pas grand-chose de vraisemblable. Mais ce qui est tout à fait fantastique, c'est qu'il a été, je dirais, le catalyseur. En ce milieu du 19e siècle, avec des idées fausses, il a été le catalyseur de toute la conquête spatiale, en fin de compte. Il a donné envie aux premiers savants, à la fin du 19e, aux premiers ingénieurs, dans les années 20, les années 30, et aux astronautes, il a donné le goût d'aller dans l'espace, avec des idées complètement farfelues. Moi, je suis admiratif par la capacité de communication de Jules Verne. Et puis, on ne peut pas non plus faire ce rapide bilan. Alors moi, ça me concerne un peu plus. J'avais 10 ans en 1957. En 1955, j'avais 8 ans. Et en décembre 1955, eh bien, ma maman m'a offert « On a marché sur la Lune ». Et Hergé a été, je dirais, pour les générations, enfin, de nos âges, probablement l'un de ceux qui ont donné le goût de la conquête spatiale. Et là encore, quand vous regardez ce qu'a écrit ou dessiné Hergé il y a 50 ans, c'est absolument extraordinaire. Les scaphandres de Tintin et du capitaine Haddock, alors je ne parle pas de Milou parce qu'on n'a encore pas envoyé de chien sur la Lune, on en a envoyé dans l'espace, mais pas sur la Lune. Ces scaphandres sont tout à fait vraisemblables et même les paysages lunaires sont quand même pas si ridicules que ça. Donc voilà toute une littérature qui pendant 2000 ans a nourri l'inconscient et le conscient collectif et préparé les esprits à ce qui devait arriver donc le 4 octobre 1957. Donc les raisons qui ont motivé l'homme à partir dans l'espace, eh bien elles sont de divers ordres. D'abord, un incoercible besoin de voyage et de conquête. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité depuis 2 millions d'années, c'est-à-dire depuis l'apparition des Australopithèques en Afrique, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du voyage. Hein ? On a quitté l'Afrique il y a 2 millions d'années, on est passé par la corne de l'Afrique, par la Palestine, le Caucase, et puis on a occupé progressivement tous les endroits que nous offrait la nature. Et puis après, début du 20e siècle, où on avait à peu près mis notre pied à peu près partout sur les continents, eh bien, on a commencé à descendre avec le professeur Picard dans les abysses océaniques, et puis on a commencé aussi à monter quelques années auparavant dans la troisième dimension qui était l'air. Et puis il manquait, eh bien, au-dessus, il manquait le vide, l'espace, et donc ça s'est fait au milieu du 20e siècle. Donc l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du voyage, c'est l'histoire du mouvement. C'est l'histoire de la mobilité. Bien évidemment aussi, dans la conquête spatiale, il y a, notamment pour les astronautes, il y a une dimension toute personnelle qui est la découverte. Il est vrai que quand vous interrogez les astronautes qui reviennent de l'orbite terrestre, ou encore ceux qui reviennent de la Lune, c'est encore pire, ils vous vantent les mérites du spectacle qu'ils ont vu, cette Terre extraordinaire, avec ses couleurs bleues, avec la fragilité de son atmosphère. Donc c'est la conquête de l'espace pour ces astronautes, c'est la découverte, c'est le dépassement de soi et c'est l'aventure, hein, sans aucun doute. J'ai même envie de dire que pour les ingénieurs qui sont au sol, c'est l'aventure aussi, c'est l'aventure technologique, tout à fait passionnante et intéressante. La conquête de l'espace, c'est aussi l'irrésistible besoin de connaître. Depuis que l'homme est sur cette terre, il veut connaître, il veut tout comprendre. La moindre fleur, le moindre animal qu'il y a sur Terre, il veut en comprendre la façon dont tout ça se génère, toute sa vie, mais aussi comment s'est formée la Terre, comment s'est formée la Lune, les planètes, etc. Et vous le savez aujourd'hui, on va encore plus loin, on veut savoir s'il y a d'autres planètes sur lesquelles il pourrait y avoir de la vie. Donc le besoin de connaître, le besoin de la connaissance, ça, c'est inéluctable, c'est l'homme, et quoi qu'on puisse dire, on ira toujours vers un besoin accru de connaissance. Et puis, il y a bien d'autres raisons qui ont motivé l'homme de partir à la conquête des espaces infinis, mais ça, on ne l'imaginait pas trop en 1957-60, c'est ce que nous apporte l'espace, les satellites à la vie quotidienne. On en parlera longuement tout à l'heure. Et puis, il y a une chose qu'on n'imaginait pas trop non plus dans ces années-là, c'est toutes les dimensions de la conquête spatiale. Alors, dimension politique, on commençait à la comprendre, parce qu'on savait qu'à cette époque-là, entre l'Union soviétique et les États-Unis, l'espace était devenu un enjeu au sein de la guerre froide, donc il y avait une dimension politique très forte dans cette conquête de l'espace. Mais l'espace, c'est aussi un enjeu scientifique, par définition. Il y a tellement d'aspects scientifiques qui sont mis en jeu, d'aspects technologiques, techniques. Aussi, bien évidemment, l'espace a été un enjeu militaire, économique un peu moins, on le verra tout à l'heure, mais c'est aussi un aspect culturel. Bref, l'espace est un domaine multidimensionnel. On ne peut pas résumer la conquête de l'espace uniquement à la science. Hein, ce n'est pas possible. Alors maintenant, regardons bien un peu tous ces enjeux. Alors, pour les deux pays, les deux superpuissances qui se sont engagées dans cette conquête de l'espace, donc fin des années 50, début des années 60, eh bien, l'espace est devenu un enjeu de puissance et de prestige. Alors, pourquoi ? Parce que, à partir de 1945, les Américains ont mis au point la bombe atomique. En 1949, les Soviétiques les ont rattrapés. Et très rapidement, on s'est rendu compte que de chaque côté, on a mis en service plus de 100 000, enfin au total, de chaque côté 50 000 armes nucléaires. Et que le moindre conflit entre ces deux pays risquait d'être catastrophique, non seulement à ces deux pays, mais à l'humanité tout entière. Donc, on a consenti à s'affronter, mais d'une manière quand même un peu plus soft, si je puis dire. Et cette conquête de l'espace, eh bien, a été justement le grand enjeu de la rivalité entre ces deux grands pays. L'enjeu est essentiellement de prestige, l'enjeu est essentiellement technologique. Mais quel que soit le résultat, que l'un ou l'autre soit gagnant ou perdant, on était sûr qu'il n'y aurait pas les millions de morts qu'il y aurait pu y avoir avec l'arme nucléaire. Alors, ce qui va se passer, c'est que, et on va le voir, au fur et à mesure que les années vont avancer, cette conquête de l'espace va être en fait une succession de batailles entre les États-Unis et l'Union soviétique. Premier satellite, premier être vivant dans l'espace, premier satellite lunaire, premier homme dans l'espace, première femme, etc. On va voir entre 1957 et 1965 une rivalité, une confrontation qui va se faire autour des grandes premières spatiales. Et il faut bien le dire, à ce jeu-là, ce sont les Soviétiques qui vont gagner. Toutes les grandes premières spatiales sur cette période-là vont être soviétiques. Les Américains ont 10 ans de retard. Et par ce fait, l'espace a été le révélateur aux yeux du monde que l'Union soviétique était devenue une puissance scientifique. Ce qu'on n'imaginait pas, souvenez-vous, à la fin des années 50, l'image qu'on avait des Soviétiques des années 50, ils mangeaient des choux, il n'y avait pas d'automobile dans les rues, ils faisaient la queue pour avoir à manger, c'était ça l'image qu'on avait des Soviétiques. Et l'espace, tout d'un coup, alors bien sûr, les Soviétiques, le gouvernement soviétique a utilisé l'espace comme moyen de propagande, et donc en Occident, on s'est rendu compte que les Soviétiques, le régime communiste soviétique, était générateur de faits scientifiques. Ça a quand même été une grande révélation. Alors après, donc il y a eu ce premier cercle de pays, États-Unis, Union soviétique, ou Union soviétique, États-Unis, et puis il y a eu de nouveaux arrivants, il y a eu un deuxième cercle, et ça je vous le disais tout à l'heure, donc la France, la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne. Un peu plus tard, l'Europe qui s'est fédérée sur ses affaires spatiales, l'Inde et Israël. Et puis on voit aujourd'hui arriver un certain nombre de nouveaux pays. La Corée du Sud ne va pas tarder à lancer un satellite, l'Iran également. Bref, mais c'est normal. Je dirais qu'il n'y a pas de raison que tous ces pays que j'appellerais, je ne sais pas comment on peut dire, en voie de développement, accèdent aussi à cette dimension spatiale. Il n'y a vraiment pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les pays aujourd'hui, faire partie du club spatial a une dimension de prestige très très forte. Il y a ceux qui sont dans le club et ceux qui n'y sont pas. Si on est dans le club, on est une puissance scientifique et on est une puissance politique. Si on n'est pas dans le club, on est en arrière, on est en arrière de la main par rapport aux autres. Ça, c'est important. Espace, enjeu militaire et sécuritaire. Dès le début des années 60, on a vu les États-Unis, l'Union soviétique s'engager dans la mise en service de satellites. Alors, essentiellement des satellites de reconnaissance pour l'espionnage, pour savoir, pour identifier quelle était la menace de l'autre côté, chez l'adversaire. Donc, Américains et Soviétiques ont lancé des satellites d'espionnage pour prendre des photos, compter le nombre de missiles qu'il y avait de l'autre côté et évaluer la menace. Et puis, on a mis au point aussi des satellites d'écoute électronique. On écoute toutes les conversations, toutes les conversations radioélectriques. L'alerte avancée aussi, des satellites capables de détecter la menace de missiles arrivant de l'ennemi. Les militaires ont aussi besoin de satellites météorologiques pour lancer leurs opérations militaires, de satellites de télécommunication, de navigation. Le GPS dont vous entendez parler depuis quelques années, pour tout vous dire, la première réunion à laquelle j'ai assisté quand j'étais jeune ingénieur, c'était une réunion où les Américains venaient nous expliquer, l'US Air Force venait nous expliquer ce qu'était le GPS. Le GPS trouve son financement à cette origine, milieu des années 70, chez les militaires. Hein. Donc, vous voyez le rôle joué dans l'espace militaire qui est devenu un enjeu très très fort. Alors, l'espace a aussi un enjeu scientifique et technologique très fort, ça vous paraît évident, mais je dirais dans des domaines vraiment très très larges. Alors bien sûr, dans le domaine de la propulsion, les fusées, hein, c'est évident. Je vous citerai simplement qu'un exemple. Lorsque les Américains sont partis sur la Lune en 1969, ils ont mis au point une fusée qui s'appelait Saturn V. Je vous verrai des images tout à l'heure, probablement. Eh bien, cette fusée avait une masse de 2900 tonnes. Elle avait une hauteur de 110 mètres. Elle avait 5 moteurs sur son premier étage. La poussée de chacun des moteurs, c'était 750 tonnes de poussée. Et la consommation était de 15 tonnes de carburant par seconde. 15 tonnes de carburant par seconde. On utilisait sur cette fusée, comme on l'utilise aujourd'hui sur Ariane 5 que vous avez là à droite, on utilise pour la propulsion de l'hydrogène et de l'oxygène. L'hydrogène est stocké dans les réservoirs de la fusée à la température de moins de 153 degrés. Je rappelle que le zéro absolu, c'est moins de 173. On est à 20 degrés du zéro absolu. Autant vous dire qu'à cette température-là, tous les matériaux deviennent cassants. L'acier casse. Donc il faut s'ingénier pour que les matériaux conservent leurs propriétés mécaniques. On utilise aussi de l'oxygène liquide à moins 182 degrés. Ces deux carburants arrivent dans les chambres de combustion. La température de combustion est de plus 3200 degrés. Je rappelle que l'acier fond à 1800 degrés, le cuivre à peu près à la même température, 1800-1900. Il n'y a aucun matériau qui résiste à ces chaleurs-là. Donc il a fallu s'ingénier pour refroidir, Donc voyez un peu les défis technologiques. Le premier étage de cette fusée qui faisait 40 mètres de haut et 10 mètres de diamètre, sa puissance est équivalente à 120 centrales EDF que vous avez sur le bord des routes. 120 centrales EDF. Voilà la puissance de ce seul étage. Donc vous voyez l'énergie qu'il a fallu déployer pour vaincre la pesanteur. Ça ne pouvait pas se faire au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Il a vraiment fallu attendre que la science, la technologie soient au point pour pouvoir y arriver. Ça, c'est la propulsion. Le guidage, quand vous rentrez de la Lune, vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment. Vous êtes obligé de rentrer avec un angle sur l'horizontale terrestre, un angle de 4,5 degrés, avec une tolérance de 0,7 degrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 0,7 degrés. Ce n'est pas énorme. Hein ? Si vous n'êtes pas dans les clous, vous rentrez trop vite, et vous brûlez en rentrant dans l'atmosphère. Si par contre vous rentrez trop tangentiellement, eh bien vous rebondissez sur l'atmosphère et vous repartez vers l'infini. Donc il faut des systèmes de guidage extrêmement précis. Alors, ces systèmes de guidage, gyroscope, accéléromètre, moi ça a été mon premier métier. Il y a 35 ans, l'usinage de ces gyroscopes se faisait au dixième de micron. Dixième de micron, et le micron c'est déjà un millionième de mètre. Non, il a fallu développer des méthodes, des procédures, des technologies tout à fait étonnantes. Les matériaux, c'est la même chose. On a mis au point des matériaux, alors si vous voulez, les premières fusées, pour tenir aux températures que j'indiquais tout à l'heure, on utilisait du tungstène. Tungstène, ben c'est les filaments dans les lampes électriques, hein, c'est du tungstène, donc qui tiennent à des températures très fortes, mais la densité du tungstène, c'est 17. L'acier, on est à 7 à peu près, hein, donc c'est deux fois et demi l'acier. C'est un ennemi, là, les cordances, pour les avions comme pour les fusées. Donc on a mis au point des matériaux carbone, capables de tenir aux mêmes températures et de la densité de 2. Et on a découvert par la suite que ces matériaux carbone, eh bien, on pouvait en faire des freins. On a commencé par faire les freins de Formule 1 et on a fait des freins pour les Airbus. En remplaçant les freins en acier par des freins en carbone, on gagnait 500 kilos sur un train d'atterrissage. On les a montés sur les TGV, on gagne 12 tonnes sur une rame de TGV. Et on a fait aussi, on s'est aperçu que le carbone était bien évidemment biocompatible. Donc on a fait des prothèses de hanches, on a fait des prothèses vétérinaires, on a fait des cœurs artificiels en carbone. Donc vous voyez, il y a eu ensuite des retombées tout à fait étonnantes de ces technologies mises au point. Alors, les traitements de données, les lasers, l'optique, l'optronique, etc., la liste est sûrement pas exhaustive. Donc voilà toutes ces disciplines scientifiques qui sont mises en jeu par l'espace. L'espace, ça a été, comme je vous ai dit tout à l'heure, un objet de confrontation. Et c'est toujours, pour des raisons de prestige, un objet de confrontation. Mais l'espace, c'est aussi un enjeu de coopération. La station spatiale internationale qui tourne au-dessus de nos têtes, il y a 16 pays qui y participent. Hein? Ariane n'existerait pas. Ariane, c'est d'abord un programme de coopération en Europe. Il y a 17 pays qui participent à Ariane. C'est même pire que ça. Sur le moteur d'Ariane, le moteur à hydrogène-oxygène, nous avons 44 sociétés de 12 pays européens. Donc le défi, d'ailleurs, il n'était pas technique, il était essentiellement dans les relations entre tous ces acteurs. Bref, on trouve la plupart des satellites, Topex Poséidon, qui est un satellite qui nous a permis de comprendre le climat, etc. C'est de la coopération franco-américaine. Intelsat, qui est un consortium de télécommunications spatiales, il y a une trentaine de pays. Donc, vous voyez, l'espace est un enjeu de coopération très, très fort. Alors, l'espace en jeu économique, là, il faut mettre un bémol. Il faut savoir que le chiffre d'affaires mondial généré par les activités spatiales est aux alentours de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est à peu près un dixième, un quinzième du marché de l'automobile dans le monde. Donc, vous voyez, ce n'est pas un marché énorme. Hein. Et les deux tiers de chiffre d'affaires sont réalisés aux États-Unis. Il faut dire aussi que la plupart des ressources financières ne viennent pas de l'entreprise privée. Ce n'est pas les entreprises qui financent les projets spatiaux. Ce sont essentiellement les gouvernements à 80%. Alors, pour vous donner quelques idées des investissements faits par les États-Unis et l'Europe dans l'espace, la NASA aux États-Unis qui est chargée des programmes spatiaux civils, pas du tout militaire, la NASA. Aujourd'hui, elle a un budget de 17 milliards de dollars. Le DOD, qui est donc les militaires, le double, 38 milliards de dollars. Vous voyez, aux États-Unis, le poids est du côté des militaires, hein, il n'est pas du côté de l'espace civil. Ceci fait 500 000 emplois aux États-Unis. En Europe, on ne joue pas dans la même cour. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, hein, qui est en charge des programmes spatiaux civils, c'est 3 milliards d'euros. Alors j'aurais peut-être dû mettre tout en dollars ou tout en euros, enfin il faut corriger de 40%, mais ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, entre 17 milliards de la NASA et 3 milliards d'euros, on n'est pas du tout dans... Alors, quant aux militaires, c'est encore plus flagrant. Je vous ai dit, 38 milliards de dollars pour les militaires américains, 0,9 milliards d'euros pour les militaires européens. Hein, bon. Et l'espace en Europe, c'est à peu près 35 000 emplois. Donc voilà quelques chiffres qu'il faut retenir. Donc l'espace aujourd'hui est largement dominé par les Américains dans le monde. Alors, on va maintenant passer au bilan. En parlant d'abord des lanceurs, des fusées. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au tout début, entre 1945 et 1957, les États-Unis et les Soviétiques, ce n'était pas l'espace qui les intéressait, c'était de faire des missiles balistiques pour porter leurs armes nucléaires. Donc ils ont fait des gros missiles, et vous en avez un à gauche là, qui est un missile, le Titan II, qui à partir de 1963 emmenait une bombe atomique de 9 mégatonnes. Alors je ne vous traduis pas en Hiroshima, mais c'est au moins 1500 fois Hiroshima, hein. Bon, et puis après, ces missiles balistiques ont été convertis en lanceurs spatiaux, donc en lanceurs de satellites. Et le grand tournant a été la mise au point du lanceur Saturn V, donc qui a envoyé les Américains sur la Lune en 69. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. C'est vraiment ce qui a été fait de plus grand, de plus important, où vraiment on a mis en œuvre les technologies les plus avancées. Et dans ces lanceurs spatiaux, par la suite, le but a été d'améliorer la fiabilité, parce qu'il faut bien le dire qu'au début, vous savez, lorsque Gagarine en 61 est monté à bord de sa fusée, les vols précédents, la fiabilité était de 42%. C'est-à-dire que notre ami Gagarine, quand il a mis son sac à bord de la fusée Soyouz, il avait une chance sur deux de ne pas revenir. Hein. Alors c'est vrai qu'il était porté par la propagande et le dynamisme de l'Union soviétique. Il était là en sauveur de la nation, si je puis dire. Donc là, il avait la foi, mais il faut voir qu'à l'époque, les fusées n'étaient pas très fiables. Aujourd'hui, on n'est plus à 42%. Quels que soient les pays du monde, on est à 95, 96, 98%. Hein. On a donc amélioré la fiabilité. Et le but aussi, c'est de satelliser des charges de plus en plus lourdes. Je rappelle que les Américains ont lancé leur premier satellite, il faisait 1,4 kg. La fusée Saturne V dont je vous parlais tout à l'heure satellisait 120 tonnes. Hein. Vous voyez, entre 1958 et 1969, en 10 ans, on est passé d'un kilo à 120 tonnes, coefficient 120 000. Hein. Et puis après est venue notre notion, réduire les coûts, parce qu'une fusée c'est quand même assez cher. Hein, les technologies mises en œuvre, c'est quand même assez cher. Si vous voulez, un lancement d'Ariane, aujourd'hui, le coût, c'est à peu près aux alentours de 140 millions d'euros. Hein. Donc, c'est quand même une machine compliquée avec des technologies chères. Donc, l'idée, c'était de réduire les coûts. Alors, il faut dire qu'on a réduit les coûts, on les a réduits de 10%, 20%, 30%, mais on ne les a pas divisés par 10, on ne les a pas divisés par 100, et on sait qu'on n'y arrivera pas. Je vous le dis d'emblée, on est vraiment à la limite. On gagnera peut-être, on va peut-être gratter encore 5 ou 10%, mais on ne divisera pas par 10 les coûts. Donc on n'est pas prêt de voir des fusées démarrer tous les matins. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, ces fusées, et ça, ça a été le fait d'Ariane en 1980, on a créé une véritable activité commerciale de lancement de fusées. Il y a eu de plus en plus besoin de satellites de télécommunication. Et donc, on a créé, les Européens ont été les premiers à faire ça, une société privée de transport spatial, Ariane Espace. Hein. Activité commerciale et activité concurrentielle, puisque Ariane a des concurrents aux États-Unis et en Russie, notamment, et au Japon également. Alors, Japon, c'est encore pas trop opérationnel sur le sujet, mais la fusée H2J japonaise a pour mission aussi, elle, de se mettre dans le marché. Et puis, à partir de début des années 70, les Américains ont changé de concept. Parce que, vous savez, quand on lance une fusée, elle lance un satellite, mais toute la fusée retombe à l'eau. Hein, on ne conserve rien. Dans la fusée Saturne V dont je vous ai parlé, elle avait une masse de 2900 tonnes. On mettait 120 tonnes sur orbite, mais ne revient que de la Lune que 5 tonnes. Hein. La fusée Ariane 5, elle a une masse de combien? 500, 600 tonnes, 700 tonnes. Elle lance deux satellites de 10 tonnes. Et puis c'est tout, mais tout le reste retombe à l'eau. Donc à un moment on s'est dit, mais attendez, est-ce qu'on ne peut pas inventer un concept où comme les avions, on fait le plein, on va là-haut et on revient. Alors c'est l'idée de la navette américaine, au début des années 70. La navette américaine, le but c'était de faire 50 lancements par an, pour un coût de 10 millions de dollars le lancement, eh ben, ça n'a pas du tout marché. Le lancement d'une navette aujourd'hui, ce n'est pas 10 millions de dollars, c'est 800 millions de dollars. Donc le but, c'était de réduire les coûts de lancement, ça a été le contraire. Hein, donc là, il y a un échec, ça c'est vrai. Et puis, au lieu de lancer 50 lancements par an, ben, on n'a jamais dépassé 9. Donc vous voyez, c'est pour ça que les Américains vont abandonner la navette en 2010 pour revenir à des lanceurs classiques, tels qu'on a connus. Donc voilà un petit peu le panorama des lanceurs, hein, depuis cette époque-là. Alors maintenant, on va voir ce que j'appelle la mission planète Terre, on va voir ce que l'espace a apporté à notre vie quotidienne. Alors d'abord, les communications. Avant 1968, lorsque vous vouliez téléphoner aux États-Unis, ben vous preniez les câbles sous-marins. À partir de 1968, vous avez commencé à prendre le satellite. Alors le premier satellite, qui s'appelait Telstar, a été capable d'avoir 200, de relayer 200 conversations téléphoniques. Le satellite que vous avez là, un Telsat 6, il en relaie 120 000. Telstar faisait 150 kilos, ce satellite-là fait 7 tonnes. Donc vous voyez, là on a fait des progrès considérables. La durée de vie de Telstar, c'était quelques mois. Un satellite comme ça a une durée de vie de l'ordre de 17 ans. Ariane, à 90% des lancements d'Ariane, c'est pour les télécommunications. Hein, donc, première chose, l'espace nous a permis de mieux communiquer entre les différents points de la planète. Tous les soirs, quand vous regardez les informations à la télé, vous avez le droit, que ce soit sur TF1 ou France 2, à la météo. La météo nous vient, alors il n'y a pas que les satellites, mais nous vient en grande partie des satellites. le GPS, navigation, localisation, sauvetage. Alors, GPS américain pour l'instant opérationnel, les Européens ont bien du mal à s'entendre sur un substitut à GPS qui s'appelle Galileo. Ça fait 5 ans que ça dure. Bon, bref, je crois qu'on va quand même y arriver. Alors, GPS, c'est quand même assez extraordinaire. Hein, avec le GPS, d'ailleurs, GPS, c'est le seul moyen spatial qu'un citoyen peut manœuvrer. Hein. Vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez pas manœuvrer un satellite de télécommunication, de télécommunication ou même de météorologie. Par contre, le GPS, vous pouvez vraiment, c'est vraiment le seul système spatial que vous pouvez manipuler et utiliser comme bon vous semble. Alors donc le GPS a des applications un peu partout, celles que vous connaissez pour vous, mais il y a des transporteurs routiers comme D'Entresang qui gèrent sa flotte de camions en Europe uniquement par GPS. Les taxis parisiens, taxi 7 là, sont gérés par GPS. Les bus de la RATP sont gérés par GPS. Hein ? Alors associé à GPS, vous avez aussi ce qu'on vous a entendu parler de la balise Argos. La balise Argos a été mise au point par le CNES, le Centre National du Spatial Français, et disposée à partir de 1978 sur des satellites américains. Cette balise Argos avait pour but à l'époque uniquement pour les courses Transat. S'il y avait un problème arrivant au navigateur, la balise envoyait un signal et on localisait l'endroit où le navigateur avait fait naufrage. Alors par la suite, ça a été étendu à d'autres applications que la course au large, hein. Bateaux de pêche, un certain nombre d'autres applications. Et il faut savoir qu'entre 1978 et aujourd'hui, 21 000 personnes ont été sauvées par la balise Argos. Ça, c'est grâce au satellite. 21 000 personnes. Hein. La balise Argos aussi nous aide à gérer la disparition des gorilles en Afrique. Les gorilles, beaucoup sont tués. Eh bien, on a été capable, en les localisant, en mettant des balises Argos, de faire remonter la population des gorilles en Afrique. Les tortulutes de Guyane, j'y étais encore il y a 15 jours, je suis allé sur la plage au bout à Saint-Laurent-du-Maroni. Les tortulutes de Guyane sont en vie aujourd'hui parce que on leur a mis des balises Argos sur le dos pendant un certain nombre d'années pour suivre leur route de migration. Le problème, c'était que les pêcheurs de Guyane ramenaient fréquemment une demi-douzaine de tortues dans leur filet quand ils allaient en pêche. Et donc, en mettant des balises Argos sur le dos des tortues, on s'est rendu compte qu'elles suivaient la migration des thons, comme les pêcheurs. Eh oui! Donc il y a eu un accord entre les pêcheurs et le département ou la région de Guyane. Et aujourd'hui, les tortulutes, elles sont sauvées. Alors je pourrais vous citer un certain nombre d'applications comme ça, vous voyez, qui font appel aux satellites et qui ont permis soit de sauver des gens, soit de sauver des espèces animales. Télémédecine. Alors là, je prendrai l'exemple en Inde. En France, on a des médecins dans tous les villages, il n'y a pas trop de problèmes. Mais dans des régions de l'Inde, vaste région où il n'y a pas de médecins, où il n'y a pas non plus d'instituteurs, eh bien, si vous êtes malade dans un village, il faut faire 500 km pour aller à l'hôpital, ce n'est pas possible, surtout si vous êtes gravement malade. Donc les Indiens, qui sont très exemplaires de ce point de vue, ont lancé il y a très peu de temps un satellite qui s'appelle ELSAT, donc satellite de santé. Et donc, vous avez je ne vais pas dire dans chaque petit village indien, mais dans un certain nombre de villages indiens, vous avez soit des capteurs pour électrocardiogramme, enfin un certain nombre de dispositifs permettant de mesurer des paramètres de santé. Il n'y a pas besoin de médecin sur place, il suffit d'un infirmier ou quelqu'un qui branche. Les informations sont communiquées par satellite à l'hôpital le plus proche, et le médecin qui est dans l'hôpital peut faire le diagnostic et préconiser un remède ou au contraire d'évacuer très rapidement le malade vers l'hôpital. Hein. Donc vous voyez, c'est le rôle du satellite est important. Les Indiens de même façon sont engagés dans ce qu'on appelle le téléenseignement. Là encore, il n'y a pas des instituteurs dans les petits villages, et on diffuse un certain nombre de programmes scolaires par télévision, mais par l'intermédiaire du satellite. L'agriculture, alors je reviens à la France. Aujourd'hui en France, il y a 10 000 hectares qui sont gérés, d'agriculture qui sont gérés par les satellites. Alors pourquoi ? C'est la combinaison du satellite GPS, enfin, des satellites américains GPS et du satellite d'observation français SPOT. Le but, c'est, avec SPOT, d'abord avec le GPS, de bien mesurer les surfaces cultivables. Donc on a la superficie, des parcelles, etc. Avec SPOT, on est capable d'identifier par des photos ou même par un certain nombre d'autres mesures des parcelles qui, par exemple, dans tel endroit, auraient un pH, enfin un excès d'acidité ou un excès de base, etc. Donc d'avoir une analyse du sol. Et donc de répartir la dose d'engrais en fonction justement de ce qu'on a mesuré dans ces parcelles. Ainsi, l'année dernière, on a économisé en France 2500 tonnes d'engrais qui ne se sont pas retrouvées dans les nappes phréatiques. Et ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle de l'agriculture de précision. Et c'est en train d'être étendu au Canada, en Australie et dans d'autres pays européens. Donc les satellites ont ce qu'on appelle une carte de préconisation qu'on envoie aux agriculteurs qui sont affiliés à ce moyen. Et donc les doses d'engrais sont réparties par zone. Hop. Alors, autre point avec les satellites, quelques exemples ici. En 2001, lorsqu'il y a eu les inondations dans la Saône, eh bien, les satellites ont été capables de déterminer les zones qui étaient inondées. Et donc, ces cartes ont été fournies aux pompiers qui pouvaient intervenir aux endroits adéquats. Alors, je ne vais pas détailler ça parce que je ne suis pas forcément très au courant de ce qui s'est passé, mais ça a permis de réduire les temps d'intervention des pompiers. La même chose pour les feux de forêt. Hein. Dans le sud-est de la France, dans le Vaucluse, etc. Ça a été très, très important. La France a lancé, il y a quelques années, un satellite qui s'appelle Déméter, parce que les géophysiciens pensaient que avant qu'il y ait un séisme, il y avait des signes précurseurs. Et ces signes précurseurs, c'était les variations du champ magnétique terrestre. Donc on a lancé un satellite qui s'appelle Déméter, chargé d'établir la carte magnétique et de mesurer la corrélation justement entre les variations du champ magnétique et l'apparition des séismes. Bon, là il faut être modeste, ça n'a pas l'air d'être bien probant. Mais voyez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un satellite. Alors, la couche d'ozone en Antarctique, vous avez le petit schéma sur la gauche, là vous voyez l'Antarctique, la tache bleue, eh bien, c'est la couche d'ozone donc qui est attaquée par ce qu'on a appelé les chlorofluorocarbones. Hein. Alors aujourd'hui, il paraît qu'elle s'est un peu rétrécie, fort heureusement, ce trou. Mais vous voyez, avec les satellites, on est capable donc de mesurer, d'identifier et à ce moment-là de voir quelle prévention ou quel remède on peut apporter à cela. Lutte contre la pollution, vous avez en bas à droite une image qui vous montre la pollution du Prestige au Portugal. Hein, vous avez les taches. Alors, en prenant des images à des périodes successives, on peut suivre l'évolution des taches de pétrole et donc diriger à la fois les gens chargés de dépolluer et dire aux bateaux attention, évitez cette zone, enfin bref. Donc des informations qui sont tout à fait importantes. Les satellites vont très très loin. J'étais il y a quelques temps en Égypte et un archéologue me disait qu'on cherchait depuis une trentaine d'années un port qui avait été creusé par Amenophis III. Et ce port a été comblé depuis des siècles et on n'arrivait pas à le retrouver, y compris par des photos aériennes. Et il a reçu une photo d'un satellite Landsat américain et je l'ai vu, ça saute comme le nez au milieu de la figure. On a très bien vu le port creusé par Amenophis III, donc en 1450 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est étonnant ce que l'espace peut apporter. Alors, l'espace et en particulier le satellite SPOT, dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure, eh bien, on l'utilise à bien d'autres choses. Hein. Bien sûr, pour gérer les ressources terrestres, la géologie, les ressources minières, etc. Mais aussi pour le développement urbain. On se sert du satellite SPOT pour... L'EDF s'en sert pour savoir où elle doit enterrer les lignes électriques entre la France et l'Espagne. Avec SPOT, on est capable de compter les oliviers dans les champs et donc de dire aux agriculteurs, eh bien, attention, plantez-les plutôt ici que là. Enfin bref, les applications sont extrêmement multiples. Hein. Alors, les militaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, utilisent les satellites. On l'a vu pour l'observation, vous avez sur la page de gauche une photo qui a été prise pendant la guerre froide par un satellite américain. C'est l'un des ports soviétiques, ports d'attache de sous-marins. Et encore la photo, parce que, bien évidemment, les Américains n'ont pas mis sur les sites web les photos les plus précises. Mais aujourd'hui, vous avez des photos. La précision des meilleurs, enfin ce qu'on appelle la résolution, des meilleurs satellites d'observation, enfin d'espionnage américain, c'est 10 pouces, c'est-à-dire 25 cm, à peu près. Hein, on voit des détails de 25 cm. Ah oui, on peut voir les plaques d'immatriculation des voitures, on voit un tas de choses. Hein, mais vous allez voir, les civils font au mieux maintenant. Hein. Donc, n'importe qui peut savoir ce que vous faites dans votre jardin. Hein, ça n'a aucun problème. Alors, tous ces satellites lancés par les militaires. Alors, vous avez ici sur la gauche un satellite qui s'appelle DPS, Defense Support Program, qui est un satellite qui a été lancé pendant la première guerre du Golfe par les Américains pour essayer de détecter les fameux SCUD. Hein. Donc, il dispose d'un capteur infrarouge. Et une fois que le SCUD, qui est au sol, là, à 400 km, met son moteur à feu, la chaleur est détectée par le satellite qui envoie un message via l'Australie, d'ailleurs, au centre de commandement américain en disant « il y a un SCUD qui vient de partir à tel endroit ». Alors, ça n'a pas marché, comme vous vous en souvenez, avec une efficacité extraordinaire. Bon, ce qu'on peut dire quand même depuis 50 ans, c'est que tous ces satellites militaires qui ont été lancés dans l'espace avaient simplement pour but de voir, d'écouter, et d'aide pour naviguer, etc. C'est pas l'envie qui a manqué aux militaires soviétiques et américains de mettre des armes dans l'espace. Hein. Les soviétiques en particulier ont fait des essais de canons, ont fait des essais de missiles pour détruire les satellites adverses. Les Américains ont fait aussi leurs propres choses. En janvier dernier, il y a juste un an, le 17 janvier, les Chinois ont détruit à titre d'exercice l'un de leurs satellites à 800 km d'altitude. Donc, vous voyez, les militaires sont toujours prêts à porter le combat dans l'espace. Mais ça n'a pas été fait de façon opérationnelle. Il faut dire qu'il y a un énorme problème, c'est que quand on veut détruire des choses dans l'espace, on crée des débris. Et ces débris, eh bien, qui tournent à quand même 28 000 km/h, c'est quand même pas négligeable, sont des menaces terribles pour les satellites. Que ce soit les satellites ennemis, et ça c'est pas grave, mais aussi pour ses propres satellites, et ça c'est quand même beaucoup plus grave. Donc ces puissances hésitent quand même à répandre des débris comme ça dans l'espace. Hein? Alors, quand je vous disais que les civils font si bien que les militaires, voilà une photo à gauche, qui est la photo prise d'un barrage sur l'Euphrate par un satellite civil israélien. Quand vous regardez, vous voyez bien les voitures. Alors non, ça c'est la photo de Washington, enfin de l'obélisque de Washington, mais on pourrait voir près du barrage également les voitures. Hein. On a un mètre de résolution, un mètre et demi de résolution. Mais aujourd'hui, les civils font 60 cm de résolution, hein, avec des satellites qui font 150 kg de masse, donc des petits satellites. On peut tout voir. Voyez le satellite Iconos qui a été lancé il y a maintenant une douzaine d'années. Vous voyez les autos. Alors, c'est le monument de Washington, là, à Washington. Hein. Vous avez l'ombre, l'obélisque. Et puis, vous avez la route qui passe à côté. Vous avez les voitures que vous voyez très bien. Et ce n'est pas la plus précise qu'on peut faire encore aujourd'hui. On peut faire beaucoup plus précis. Alors, ça pose un problème. Ça veut dire qu'effectivement, pour des groupes terroristes... Alors, ces photos peuvent s'acheter dans le commerce. Hein. Ça veut dire que pour des groupes terroristes, eh bien, on peut se procurer des objectifs relativement stratégiques. Alors, fort heureusement, les Israéliens ont interdit, enfin, ils ont fait des accords avec les sociétés qui sont capables de lancer des satellites de genre, ont fait des accords interdisant en floutant les images. Alors, allez un jour sur Google Earth, hein, vous avez toute la planète qui a été prise en photo par satellite aussi avec des mélanges de photos aériennes. Hein. Moi, je vois très bien mon jardin avec les 4 chaises dans le jardin, la table, sans problème. Hein. Ça, aucun problème. Par contre, Israël est complètement flouté. Certaines bases américaines sont floutées. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de secret pour personne, quasiment. Hein. Alors, autre volet... l'homme dans l'espace. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le premier homme qui est parti dans l'espace, c'est notre ami Yuri Gagarin, donc le 12 avril 61. Et l'étape importante suivante, bien évidemment, ça a été, je dirais, la revanche américaine. C'est là où les Américains ont repris le dessus sur les Soviétiques. C'est donc le débarquement de l'homme sur la Lune. C'était en 1969. Il y a donc eu 6 missions qui sont posées sur la Lune entre 1969 et 1972, en différents endroits de l'équateur lunaire. Les Américains avaient démontré ce qu'ils avaient démontré, pour des affaires de prestige essentiellement. Ce n'était pas uniquement pour le plaisir de mettre un homme sur la Lune, c'était pour battre les Soviétiques, c'était bien ce qui avait été décidé par Kennedy. Par contre, les Soviétiques étaient les grands perdants de la Lune. Et en 1971, les Soviétiques ont décidé de se redonner un peu de prestige en développant donc les stations spatiales. Et donc depuis 1971 jusqu'à la station Mir, qui a été mise hors service en 2001, donc pendant 30 ans, les Soviétiques ont pratiquement une station en permanence en service avec des astronautes à bord. Alors, pas tout le temps, mais c'était en particulier le cas pour toute la station Mir entre 1986 et 2001. Alors, aujourd'hui, eh bien, il y a une station internationale qui est mise en œuvre par 16 pays, qui est en cours de construction. Vous avez ici une image où on voit un astronaute qui est en train de procéder à des installations de matériel. Alors, je vous fais remarquer cette Terre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette Terre qui est à gauche, avec ses immensités océaniques, et vous voyez cette mince pellicule bleue, c'est là-dedans que nous vivons. Vous voyez la fragilité. Un peu, 100 km d'épaisseur. C'est terrible quand on regarde ça. Mais il n'y a vraiment que depuis que nous sommes dans l'espace que nous pouvons voir ça. On n'avait pas cette impression avant. On n'avait pas le recul nécessaire. Alors, autre volet, l'exploration de l'univers. Depuis 1957, les différents pays ont envoyé plus de 200 sondes spatiales, dans le système solaire et dans l'univers, pour comprendre ce système solaire et cet univers. Alors, toutes les planètes du système solaire ont été étudiées, y compris le Soleil, mais aussi on s'est porté un peu plus récemment sur l'étude des comètes et des astéroïdes. Alors, les comètes, c'est important parce qu'on pense que ce sont des témoins à l'origine du système solaire et qui n'ont pas été bouleversés par les conditions qui se sont créées sur les planètes. Donc, une comète est le témoin de ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années. Donc, c'est important d'étudier les comètes. Alors, le but, bien évidemment, c'est de prélever des échantillons, de comprendre, voir la structure des roches, du sol, leur composition, etc. Et ce sont les deux superpuissances qui se sont d'abord engagées dans cette aventure, États-Unis et Union soviétique, et ça, quelques mois après le lancement du Sputnik. Et puis après, on a vu l'Europe. L'Europe et le Japon. Alors l'Europe, le premier succès de l'Europe sur ce domaine-là, c'est l'envoi de la sonde Giotto vers la comète de Halley en 1986. On est passé dans la queue de la comète, donc ça a été un grand succès pour l'Europe. Et puis à partir de 2003, il y a eu 4 succès extraordinaires dont on n'a pas suffisamment parlé dans les médias. L'Europe a lancé une sonde qui s'appelle Mars Express. On va voir quelques photos tout à l'heure. Donc, c'est la première fois que l'Europe lance une sonde vers Mars. Elle s'est mise en orbite autour de Mars et depuis ce temps-là, nous envoie des images absolument extraordinaires. C'était la première fois aussi en 2003 qu'on envoyait une sonde vers la Lune, Smart One. Pareil, ça a marché impeccablement. Et puis, en coopération avec les Américains, on a lancé une sonde vers Saturne et l'un des satellites de Saturne, Titan. Donc la sonde vers Saturne, c'est une sonde typiquement américaine qui s'appelle Cassini, et il y avait un passager européen destiné à se poser sur Titan qui s'appelait Huygens. Eh bien, c'est l'Europe qui a réussi l'atterrissage le plus loin dans le système solaire avec cette sonde posée sur Titan en 2005. Et puis, quelques mois après, on a lancé une sonde vers Vénus Express qui analyse actuellement l'effet de serre sur Vénus, Hein, parce que c'est ça qui est important. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on va étudier Vénus, Mars, etc. Je rappelle que Vénus, aujourd'hui, a 400 km de nuages d'épaisseur. On ne voit pas le sol de Vénus parce qu'il y a un effet de serre terrible. Est-ce que Vénus n'était pas la Terre il y a 4 milliards d'années ou 3 milliards d'années et qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, on a des températures au sol de 470 degrés hein? Est-ce que ce n'est pas ce qui risque de nous arriver dans... Alors évidemment, on sera peut-être dans 2 milliards d'années. Hein? On n'aura plus mal aux dents, mais bon, il faut réfléchir à ça. Mars, c'est la même chose. On sait maintenant, on a la certitude, avec Mars Express, avec des sondes américaines, que l'eau a coulé en abondance sur Mars. Pourquoi est-ce que l'eau est partie? Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de serre? On sait qu'il y a plein de gaz carbonique dans l'atmosphère de Mars. Donc, il faut comprendre. Alors, vers la Lune, eh bien, il y a eu un épisode intéressant, c'est qu'entre 1958 et 1976, Américains et Soviétiques ont lancé une soixantaine de sondes, à peu près. Il y a eu l'épisode Apollo, on a ramené des échantillons lunaires. Les Soviétiques, avec des sondes automatiques, ont ramené 330 grammes de poussière lunaire, alors que les Américains en ont ramené 384 kilos. Notre but, c'est de comprendre l'origine de la Lune. Comment la Lune s'est formée? Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, et Smart One, donc cette sonde européenne, tend à confirmer l'hypothèse, c'est qu'il y a eu, il y a 4 milliards d'années, un choc entre la Terre et probablement un corps céleste, un astéroïde, qui a décroché une partie de la structure terrestre. L'ensemble s'est amalgamé pour former la Lune. Voilà probablement l'origine de la Lune. Hein? Donc, il faut savoir aussi que s'il n'y avait pas la Lune, on n'existerait pas. L'ensemble Terre-Lune occupe une position particulière par rapport au Soleil, qui nous permet d'être ni trop chaud ni trop froid, donc d'avoir de la vie. S'il n'y avait pas la Lune, on n'occuperait pas la même position. On serait, je ne sais pas si on serait plus loin ou plus proche, mais il n'y aurait pas de vie. Hein. Donc, la Lune est très importante pour nous. Bon, voilà les endroits sur la surface de la Lune où sont posées les sondes soviétiques et les sondes américaines, hein, essentiellement dans l'équateur lunaire. Et voilà les images que nous a ramenées, que nous a envoyées Mars Express. Et on a découvert en 2005, au pôle nord de Mars, un cratère de 35 km de diamètre avec un lac de glace de 3 km d'épaisseur. Photo superbe, hein. Et vous avez sur le sommet de la montagne, là, c'est de la neige carbonique. Donc, on a la confirmation qu'il y a eu de l'eau hein, sur Mars, à un moment ou à un autre. Voilà encore des photos prises, alors là, par les robots américains Spirit Opportunity. Hein, ce qu'on appelle le Cap Verde, là, c'est une espèce de cap. Alors, vous voyez que le paysage n'est pas très sympa, hein, c'est vrai, mais... On a quand même des photos absolument extraordinaires. Alors, vous pouvez voir tout ça sur Internet. Hein. Vous allez sur le site de la NASA, vous avez tout ça, ou sur le site de l'Agence spatiale européenne. Hein. On s'est intéressé aux grandes planètes à partir de 72, 71. Les Américains ont envoyé Pioneer 10, Pioneer 11. Alors, aujourd'hui, l'une de ces sondes, alors je ne sais plus si c'est la 10 ou la 11, est la plus, elle est sortie du système solaire. Elle est très, très loin, mais elle arrivera dans un million d'années vers la prochaine étoile. Donc le chemin à parcourir est encore très très grand. Donc vous voyez, on a même pris des photos de satellites de Saturne. On a envoyé des sondes vers Jupiter pour mieux comprendre cette fameuse tache rouge là, qui est apparue à la Renaissance. Hein. Neptune, vous voyez la photo de Saturne avec quelques satellites, hein, absolument extraordinaires. Grâce au télescope de Hubble, on a découvert des anneaux autour d'Uranus qu'on n'imaginait pas. Alors voilà Titan, hein, ce fameux satellite de Titan, avec la photo au moment de l'atterrissage prise par la sonde européenne. Alors ce n'est pas des cailloux, hein, c'est des blocs de glace. Il fait moins 182 degrés là, au sol. Et vous voyez sur la photo de gauche, on voit Titan, une espèce de mer. Alors ce sont des mers, ce sont des lacs. Mais ce n'est pas des lacs d'eau, c'est des lacs de méthane. Eh oui, des lacs de méthane. Alors, il y a de l'énergie, là. Hein. Là, il y a de l'énergie. Hein. Ça peut être intéressant, mais c'est loin, quand même. Il faut aller la chercher. Des lacs de méthane. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi... nous sommes allés photographier des astéroïdes. On a percuté des comètes pour savoir de quoi elles étaient faites. Hein. On a prélevé aussi, avec la sonde américaine Stardust, de la poussière interstellaire. qu'on a ramené sur Terre, et puis les grands progrès, eh bien, télescope de Hubble. Alors là, on a découvert des choses absolument extraordinaires, des galaxies. Et vous avez en bas ce qu'on appelle les piliers de la création. Là, c'est une pouponnière d'étoiles. Si vous revenez dans quelques milliards d'années, eh bien, il n'y aura plus ces colonnes de fumée, il y aura des étoiles. C'est une pouponnière d'étoiles. Avec un autre satellite, avec deux autres satellites, COBE et WMAP, eh bien, on a été capable de prendre une photo de l'univers. Alors, je ne suis pas capable de vous l'interpréter. On a été capable de prendre une photo de l'univers quand il avait 380 000 ans, c'est-à-dire il y a 13 milliards d'années. Voilà. Alors, le bilan de tout ça, combien ça nous coûte? Je vous l'avais promis. Eh bien, espace civil, espace militaire, ça coûte 150 euros à un Américain. À vous, ça vous coûte deux tickets de cinéma. 12 euros. Voilà ce que vous payez par an pour l'espace. Alors, pour nous, Français, ça nous coûte un peu plus cher parce que la France participe dans l'espace européen. C'est la France qui contribue le plus, hein, à l'espace européen. Mais vous voyez, ça nous fait que 30 euros. C'est quand même pas extraordinaire. Hein. Donc, surtout quand vous entendez dire dans les médias « Ah là là, la fusée a explosé, c'est encore des milliards d'euros qui vont en fumée. » Alors évidemment, on peut toujours regretter. Enfin, il n'y en a plus beaucoup qui explosent, fort heureusement. Mais vous voyez que c'est quand même pas des dépenses tout à fait importantes. Je rappelle que chaque Français dépense chaque année 480 euros pour la franchise des Jeux. Même vous, si vous ne jouez pas, en moyenne, 480 euros. Pour la tabac et l'alcool, également 480 euros. Donc vous mettez en face les 30 euros d'espace et... Voilà. Hein. Alors, on peut dire deux mots de ce qui va se passer demain. Domination américaine. Les Américains font de l'espace un outil de domination, ça c'est clair. Hein. Ils l'affichent, ils le disent. Montée en puissance de la Chine et de l'Inde. La Chine a lancé il y a 2 mois son premier satellite vers la Lune. 1 mois après le Japon. Mais le Japon avait déjà lancé un satellite en 90 vers la Lune qui n'avait pas très bien marché d'ailleurs. Hein. Mais donc, il y a ces deux pays qui arrivent, enfin, qui sont déjà dans l'espace, mais qui maintenant franchissent un cran supplémentaire pour l'exploration du système solaire. L'Europe, c'est difficile. C'est difficile parce que l'espace européen, c'est 17 pays. Le poids de la Slovénie est le même que celui de la France. La Slovénie a le droit à un vote, comme la France. Donc, il y a quelque chose qui ne va plus. Ça allait très bien quand il y avait que la France, l'Italie et les grands pays, quoi. Mais aujourd'hui, c'est un peu un cheval, une alouette. Donc, bon, simplement, ce que je dirais, c'est que le président des États-Unis, le premier ministre japonais, le président Poutine, les responsables des grands pays se sont tous exprimés sur leur vision de l'espace, sur ce vers quoi devrait tendre l'espace de leur pays. J'attends toujours qu'un responsable européen fasse la même chose. Ça, c'est un drame. La dimension politique de l'espace en Europe est encore très faible. Et il y a de nouveaux pays qui arrivent encore. Je vous ai dit la Corée du Sud, l'Iran, le Nigeria vient d'afficher des ambitions. Alors, ils ont du pétrole, ils ont de l'argent, ça affiche des ambitions. Donc, on va voir arriver de plus en plus de pays. Alors, vous voyez cette image prise par un satellite, c'est le fameux ouragan Katrina. Hein, vous voyez un peu la taille de l'ouragan, hein, qui a tout détruit en Louisiane. Hein. L'objectif en ce qui concerne les lanceurs, eh bien c'est toujours de minimiser, de réduire les coûts, donc d'avoir un lanceur qui, comme un avion, pourrait décoller à l'horizontale, emmener son satellite sur orbite, rentrer. On n'aurait simplement que le plein à faire. Les défis technologiques sont considérables. Hein. On n'y arrive encore pas. Hein. Il faudra encore attendre quelques années. Par contre, ce qu'on voit apparaître du côté américain, c'est les deux fusées que vous avez sur la droite. C'est ces deux fusées qui devraient permettre aux Américains de retourner sur la Lune en 2020. Et vous avez sur la gauche, là-bas, cette fameuse fusée Saturne V dont je vous parlais tout à l'heure. La vie quotidienne, eh bien, il y aura de plus en plus d'espace dans notre quotidien, surtout dans des pays où les infrastructures en matière de téléphonie, de télécommunication n'existent pas. C'est le cas de l'Afrique en particulier. Mais en Europe, l'arrivée de la télévision haute définition va remettre en selle les satellites pour nous apporter ça. La localisation, on en a parlé tout à l'heure, souhaitons que l'Europe se mette enfin d'accord sur son propre système de localisation Galileo. GMES, programme très important décidé par l'Europe, il s'agit effectivement là d'un programme spatial dédié uniquement à la protection de l'environnement et de la sécurité. Et qui fait partie, programme purement européen, mais qui fait partie d'un système de systèmes qui s'appelle GEOS. Donc l'Europe apporte sa contribution à la meilleure connaissance de la planète, à la meilleure connaissance des menaces. Pour le militaire, les Américains vont toujours de l'avant, dépensent de plus en plus d'argent pour leurs militaires, mais on voit aussi arriver dans le domaine militaire de plus en plus de pays. L'Égypte a lancé son premier satellite d'espionnage il y a un an. Le Japon également a lancé 3 satellites d'espionnage pour observer la Corée du Nord. La Turquie a lancé ou va lancer son premier satellite d'espionnage. Le Nigeria, j'en parlais. Donc vous voyez, on voit un certain nombre de pays qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans l'espace, donc arriver dans ce créneau. La connaissance de l'univers, je l'ai dit tout à l'heure, Chine, Inde, Japon sont de plus en plus présents. Et un grand domaine est en train de s'ouvrir, et là c'est la France qui a lancé, je dirais, qui a tiré la première. Alors ça c'est le grand défi des années qui viennent. J'espère qu'on va vivre suffisamment longtemps pour voir cela. Depuis 1995, les astronomes ont trouvé 250 planètes, un peu plus, je crois que c'est 260 maintenant, planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, mais les ont trouvées par des moyens terrestres, télescopes ou autres moyens de mesure. Donc l'idée a été de mettre sur orbite un satellite pour s'affranchir de l'atmosphère, qui est quand même très perturbatrice. Et donc la France a lancé, il y a un peu plus d'un an, 13 mois, le satellite Corot, donc qui est chargé de détecter ces planètes qui tournent autour du Soleil. Alors, elle a détecté des grosses planètes de type Jupiter, mais son objectif, c'est de trouver des planètes ce qu'on appelle des planètes telluriques, de la taille de la Terre. Aujourd'hui, dans notre connaissance, c'est probablement ces planètes-là, ce type de planète-là, qui est porteuse de vie. Donc, il faut s'attendre, dans les années qui viennent, à avoir des premières informations sur ces planètes qui pourraient éventuellement détenir de la vie dans d'autres systèmes solaires. Ça, c'est le grand sujet des années qui viennent. Les vols habités, bien l'Inde et la Chine. Alors la Chine est déjà présente dans les vols habités, je vous l'ai dit, et l'Inde a affiché aussi des ambitions pour 2014. Les Américains ont décidé de retourner sur la Lune à partir de 2020, de créer une base permanente à 2022. Je n'ai pas expliqué pourquoi. En 1994, les Américains ont lancé un satellite autour de la Lune qui s'appelait Clémentine. Et Clémentine a détecté de l'hydrogène sur la Lune. Or, dans les roches d'Apollo, il y avait de l'oxygène. Quand on parle d'hydrogène et d'oxygène, on se dit qu'il y a peut-être de l'eau. Et par ailleurs, au pôle sud de la Lune, il y a un grand cratère qui est le plus profond cratère du système solaire, qui fait 13 km de profondeur, qui est situé dans le bassin d'Atken, au pôle sud. Et là, on pense qu'au fond du bassin, il n'y a jamais vu le soleil. Et il est possible qu'il y ait de l'eau sous forme de glace. Donc c'est la raison pour laquelle les Américains, en 2022, veulent implanter une base dans le cratère Shackleton, au pôle sud de la Lune, pour vérifier s'il y a de l'eau ou pas de l'eau. L'objectif des Américains, c'est vraiment de créer une base permanente, alors qu'Apollo, vous vous souvenez, ils avaient des missions de quelques jours et repartaient. Là, il s'agit d'équipages qui pourraient se relayer. Autre sujet dont vous avez entendu parler, le tourisme spatial. Donc un certain nombre de mécènes privés, comme M. Branson, vont proposer à partir de 2009 à des citoyens, pour la modique somme de $200,000, de faire 3 minutes de vol à 100 km d'altitude. Si vous voulez mon avis, je suis un peu réservé là-dessus. Même $200,000, il faut quand même les sortir. C'est quand même pas évident. Bon, enfin, bon, bref, on verra. Si on avait en 1930 fait ce raisonnement, on était loin d'imaginer qu'on serait sur la Lune 30 ans plus tard. Et puis peut-être que donc, alors j'ai mis 2057 parce que ça va juste 100 ans, c'est pour le fun. En 2057, eh bien, peut-être que l'homme posera le pied sur Mars, parce que même si, si vous voulez, on peut toujours me dire, mais à quoi ça sert d'aller sur Mars, etc. Quel est le rapport entre l'investissement et ce que ça va rapporter ? Parce que ça, c'est le grand mot aujourd'hui. Vous savez, on ne peut rien faire sans parler de retour sur investissement. Hein. Non, moi j'en reste au fait que l'homme, bien depuis, je vous l'ai dit, depuis qu'il est né, a occupé tous les territoires que lui permettait la nature. Aujourd'hui, on sait qu'en se débrouillant bien, ben, on pourra aller jusque Mars et peut-être même sur Europe, hein, satellite de Jupiter. Sur Europe, il y a un océan. Alors, il y a d'abord 10 km de glace, je crois, hein, et puis un océan d'eau salée en dessous. Hein. Mais alors, on ne pourra pas aller plus loin. Hein. Parce que vous savez, déjà Mars, c'est 9 mois de voyage. Hein. Et il faut enfermer 5 personnes dans une boîte de conserve pendant 9 mois aller, 9 mois de retour. Ça va être quelque chose. Hein. Ce n'est pas tellement la technologie qui va être dure à trouver là. Ça va être le comportement, la psychologie hein, des astronautes. Mais je pense qu'un jour, on ira sur Mars parce qu'il n'y a rien de nous l'empêche. Hein. Mais au-delà, on ne pourra pas. Hein, c'est clair. Alors, je voudrais simplement terminer en vous disant justement, pour illustrer ça, l'étoile la plus proche de notre système solaire, c'est Alpha du Centaure, ou Proxima du Centaure. Elle est à 4,3 années-lumière. C'est tout proche, tout proche. Avec la propulsion qu'on a aujourd'hui des fusées, on mettrait 800 000 ans pour y aller. 800 000 ans. Si on était capable de naviguer à 5% de la vitesse de la lumière, je rappelle que la lumière a une vitesse de 300 000 km par seconde. 5% de 300 000, ça fait 15 000 km par seconde. Aujourd'hui, on ne sait pas réaliser une vitesse, enfin, on ne sait réaliser que le millième de cette vitesse. Donc vous voyez, et on ne sait pas quel moyen de propulsion d'autres. Il faut faire des progrès dans la physique fondamentale. Donc vous voyez, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs, mais on est vraiment cloué sur notre bonne vieille terre, comme disait le capitaine Haddock. Hein. Bon, donc non, parce que j'entends souvent des gens me dire « oui, on va se balader entre les étoiles, dans les galaxies, etc. » Non, 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 faut pas rêver. On n'ira pas plus loin que Mars, ou peut-être si on est bon sur Europe, c'est un symbole d'ailleurs, mais voilà, hein, notre vision des choses est quand même extrêmement limitée. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis désolé, je suis toujours un peu trop long, mais c'est des sujets qui sont inépuisables, comme est l'espace. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Non, non, vous n'êtes pas trop long, c'est qu'ensuite, il doit y avoir une autre conférence vers 8h30.
Ah oui, d'accord.
Et donc, mais vous avez le temps de poser quelques questions, si vous voulez poser des questions. Oui, oui, je vous en prie.
Si vous permettez, monsieur, et je ne veux pas mettre en concurrence les efforts américains ou soviétiques, mais les Américains ont développé la navette et les Russes continuent d'envoyer des Soyouz,
ouais,
qui sont perdus, bien sûr, mais qui sont, enfin, pour ce que j'en sais, d'un coût très modique par rapport à la navette. Et, alors, vous n'avez pas parlé du coût pour le Russe, par exemple, de cette conquête spatiale. Même chose, s'il vous plaît. J'avais cru lire un jour que la planète, que MIR,
la station
Mir, interplanétaire, ouais, MIR, était un relais pour éviter d'aller faire une station sur la Lune. Il était plus coûteux d'aller sur la Lune que d'aller sur MIR. Et pour partir, par exemple, vers Mars ou une autre planète, les deux moyens pouvaient être utilisés et pouvaient servir de base, de départ. Pouvez-vous expliquer quelque chose sur ces sujets, s'il
d'accord
vous plaît, merci.
Alors, sur les coûts de Soyouz, alors d'abord, je vous défie de convertir des roubles en euros ou en dollars. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça n'a rien à voir. La navette et Soyouz. Soyouz est capable de mettre 7 tonnes sur orbite, la navette 100 tonnes. Hein, donc, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. C'est vrai que Soyouz est parfaitement adapté à la mise sur orbite de satellites de communication de 3 tonnes, par exemple. Et là, il est extrêmement compétitif. Il est extrêmement compétitif parce que les taux horaires en Russie sont beaucoup moins élevés qu'en Occident. Le salaire d'un ingénieur russe aujourd'hui, c'est 350 euros. Chez nous, c'est plus de 10 fois plus. Donc, le rapport de coût de lancement entre un Soyouz et une fusée française ou occidentale se trouve dans la différence des taux horaires. Hein, ça, c'est clair. Par contre, pour Soyouz, ça a été une idée de génie en 1953, ce Soyouz. Une idée de génie. Hein, Korolev, qui a inventé cette fusée, a une idée de génie, parce que ça demeure la fusée qui va lancer encore pour 20 ou 30 ans un certain nombre de satellites à des coûts tout à fait raisonnables. Hein. Et ça, vous avez raison de le préciser, parce que on a tendance à penser dans l'espace, ça, je le combats depuis 40 ans, c'est que il faut faire de la haute technologie pour être bon dans l'espace. Non, que demande-t-on à un lanceur spatial ? On lui demande de monter à 100 km d'altitude une masse et de lui mettre une certaine vitesse. On ne lui demande pas d'être une belle fusée. Hein, on lui demande d'emporter une masse et une certaine vitesse et d'être le moins cher. Et souvent, quand on dit moins cher, c'est souvent antinomique avec les technologies. Hein, ça, c'est clair. Et les Russes nous montrent ça. Mais je vous ai dit aussi, il y a une autre raison, c'est la différence de taux horaire. Alors, pour revenir aux stations, alors les stations, ça, c'est des débats qui ne sont jamais tranchés depuis 50 ans. Faut-il aller directement sur la Lune, par exemple, ou au contraire, faire une halte dans une station, en station d'orbite terrestre, refaire le plein et repartir ? Aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'est pas capable de. Une station aujourd'hui accueille des astronautes qui font des expérimentations à bord. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une station en orbite terrestre qui serait station service à laquelle on se ravitaillerait. Ça, on ne sait pas faire encore aujourd'hui. Donc, la question de savoir si cette station en orbite terrestre pourrait être un relais, non. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Hein. Alors peut-être que dans 20 ou 30 ans, le problème sera fondamentalement changé, parce que ça, là aussi, il y a un problème d'économie qu'il faut voir. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est, on en revient un petit peu de ça, hein, c'est un peu un échec de l'espace, c'est que les stations ne nous ont pas apporté grand-chose, il faut bien le dire. Quand on a commencé à faire la station internationale en 1998, un certain nombre de gens ont dit, bah, à bord des stations, on va faire des cristaux, nouveaux cristaux, même des médicaments. On a entendu dire le vaccin anti-sida, etc., on va le faire là-haut, etc. Bon, on en est revenu de cette affaire, hein, à tel point qu'aujourd'hui, la station, on ne sait plus trop à quoi ça va servir. Hein, et on en fait ça, d'ailleurs, les Américains ont décidé de l'abandonner en 2016. Hein. Ah oui, complètement. Bon, par ailleurs, quand on voit le résultat à bord des stations et quand on voit l'investissement, la station spatiale internationale, on est aujourd'hui à 170-180 milliards de dollars. Quand on voit les résultats, je trouve que le coût n'est pas à la hauteur de l'enjeu quand même. Hein. Donc, l'espace de demain, je ne suis pas certain qu'il y ait des stations en orbite autour de la Terre. On ne voit pas trop quoi ça pourrait savoir, mais ça n'interdit pas effectivement qu'on ira directement de la Terre à Mars, hein, comme on l'a fait il y a 40 ans pour aller sur la Lune. Mais le relais des stations, ça c'était des grandes idées des années 50, mais bon, on a fait du chemin depuis.
De quand date précisément le concept de fusée ? J'ai lu quelque part que c'était un professeur russe de physique qui enseignait dans une institution pour jeunes filles quelque part en Russie, qui pendant ses loisirs avait mis ça au point. Et que Godard, celui qui a donné son nom au fameux institut, avait repris à peu près le même concept, et ainsi de suite, puis les Allemands seraient venus, etc.
Alors, ce n'est pas tout à fait exact. D'abord, les fusées existent depuis le Xe siècle, à peu près. Entre le Xe siècle et le début du XXe, il y a eu énormément de fusées, mais tout à poudre, c'était de la poudre. Je vais vous donner un exemple. En 1804, alors c'était que des fusées de guerre. Hein. En 1804, la ville de Copenhague a été détruite par les Anglais, détruite par l'envoi de 12 000 fusées sur la ville de Copenhague. En 1799, l'armée britannique a pris la pâtée en Inde parce que le sultan de Mysore avait 5000 fusées dans le rang de ses fantassins. Donc les fusées, c'est une vieille affaire. Ce qui est nouveau, fin du 19e siècle, on commence à s'intéresser à la conquête de l'espace. Mais on voit très bien que la poudre n'est pas forcément la solution, qu'il faut quelque chose de plus énergétique. Et là, le russe dont vous parlez, Konstantin Edouardovitch Sokolovsky, qui était un instituteur à Kalouga, à 200 km au sud de Moscou, est le premier à établir, parce qu'on ne savait pas comment fonctionnaient les fusées. On pensait que les gaz d'échappement s'appuyaient sur l'air pour avancer. On n'avait pas compris le principe de l'action et de la réaction. Donc c'est le premier à établir l'équation du fonctionnement de la fusée. Et on comprend comment ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'air pour qu'elle avance. La preuve en est, c'est que dans l'espace, il n'y a pas d'air et elle avance. Hein ? Il a des idées géniales. En 1903, il nous dit les meilleurs carburants, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Il faudra attendre 1958 pour que le premier moteur de ce type soit réalisé par les Américains. Donc visionnaire. Il nous parle de station orbitale, il nous parle de satellites, de télécommunications, etc. Visionnaire. À la même époque, il y a un Français qui opère, qui s'appelle Robert Esnault-Peltry, qui lui a à peu près le même schéma. Là, on est en 1907. Hein, 1900, enfin, sa première conférence à Esnault-Peltry, c'est en 1912. Alors, j'ai fait une conférence, dommage, on n'a pas le temps, parce que la conférence est là-dedans. J'ai fait une conférence hier sur l'apport d'Esnault-Peltry à un personnage remarquable. Il a d'abord inventé le manche à balai, le moteur en étoile pour les avions, le premier monoplan, 1907, et après il s'intéresse à l'espace, il va faire les premiers moteurs fusées en 1930, enfin un personnage tout à fait étonnant, très très peu connu à l'étranger, et même en France, c'est dramatique. Il y a un Américain, Goddard, qui en 1926 est le premier à réaliser la première fusée à carburant liquide. Fusée qui fait 100 grammes mais qui va monter à 10 mètres. C'est un début. Quand on voit le chemin avec Saturne V, effectivement, là, il y a eu un parcours de fait. Et puis, on a un quatrième qui est un Allemand qui s'appelle Obert, qui, lui, va être l'inspirateur du V2 allemand, de von Braun. Donc, voilà les quatre grands pionniers de l'astronautique qui vont établir les bases théoriques, mais commencer à faire les premières expérimentations. Mais c'est vrai pour Goddard et pour Esnault-Peltry. Ni Tsiolkovsky, ni Aubert ne vont expérimenter les fusées. D'accord ? Donc voilà le schéma. Avons-nous fait le tour de l'univers ?
Non, moi, j'aurais encore une question à propos des stations, de ce qui peut se passer en périphérie de la Terre. Autrement que pour les voyages, il y a quand même un intérêt aussi, que, par exemple, de pouvoir fabriquer des métaux qui ne seraient pas... joindre des molécules qui ne seraient pas possibles sous la gravité terrestre, etc. Je sais pas.
Ben non, on en est revenu de ça.
On en est revenu.
Et le meilleur exemple, c'est les cristaux. On s'imaginait que parce qu'il n'y avait pas d'apesanteur, on aurait des cristaux parfaits. Et ben depuis, on s'est réalisé sur Terre des cristaux parfaits. Eh oui. Non, on en est complètement revenu. Je vous donne un exemple. En 1995, la société américaine 3M, Dieu sait si les Américains, quand ils investissent, c'est qu'ils sont sûrs qu'il y a un retour sur investissement, avait investi dans la station. 4 ans après, ils sont tirés. Et 3M, il n'y a plus aucune société qui finance. Hein ? Aujourd'hui, les astronautes, les résultats des expériences qui sont dans les stations vont essentiellement aux astronautes, c'est-à-dire sur leur comportement neurosensoriel, sur leur comportement physiologique. Ce qu'on peut dire, c'est que ça nous a permis d'un peu mieux comprendre l'ostéoporose et le vieillissement du corps humain. Mais c'est pas un acquis très 180 milliards de dollars, c'est un peu cher. Hein, hein. Non, il y a aujourd'hui une interrogation sur le fait d'avoir en permanence des gens sur orbite. Hein, on voit pas trop à quoi ça sert.
Belle conclusion.
Je ne sais pas s'il en porte. Ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, la Sobeygan, oui, de Jastrow, un physicien bien connu américain, déniait toute validité à ce genre de concept. Quel est votre sentiment à ce propos ?
Alors, d'abord, on n'a pas dit toute la vérité là-dessus, parce que les Soviétiques avaient commencé bien avant les Américains. Hein, sur cette affaire de guerre des étoiles, les Soviétiques ont commencé en 1976 à imaginer une guerre des étoiles avec un parapluie de satellites, d'intercepteurs de les côtés qui arrêteraient toutes les têtes nucléaires venant de l'extérieur. donc parapluie parfaitement étanche. Bon, nous en France, je me souviens en 83, lorsque cette idée de Reagan a été énoncée, le parapluie étanche, on n'y croyait pas trop. Vous savez, quand vous avez 20 000 têtes nucléaires qui vous arrivent et que vous êtes sûr de les arrêter des 20 000, il faut vraiment être soit très ambitieux, soit inconscient. Hein. Donc ce concept de guerre des étoiles, opérationnellement, on en a toujours douté. Mais il ne faut pas le lire au premier degré, ce concept de guerre des étoiles. On était dans une situation aux États-Unis, en Union soviétique, où la CIA savait parfaitement que l'économie soviétique était au bord de la rupture. Faut voir, d'abord, la rupture a eu lieu avec Gorbatchev, 85-86, donc 3-4 ans après. Donc les Américains savaient parfaitement qu'il y avait des problèmes économiques en Union soviétique. Et je dirais que Reagan, en parfait cow-boy, joueur de poker, il a rajouté 5 milliards de dollars par an sur la table en inventant cette guerre des étoiles. Or, comme de l'autre côté, les Soviétiques, et ça c'était l'histoire qui nous le démontrait, là où il faut un ingénieur américain, il y avait 4 ingénieurs soviétiques, pour eux c'était 4 fois plus. Alors c'était pas en dollars, c'était en roubles, mais enfin dans leur économie c'était aussi onéreux. Et donc cette guerre des étoiles a précipité l'économie soviétique vers la catastrophe. Donc, c'est pas cette première lecture qu'il fallait voir, la faisabilité du concept de guerre des étoiles, mais plutôt l'outil politique et économique permettant de mettre à genoux l'Union soviétique. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Américains ont mis 5 milliards de dollars par an pendant 5 ans, donc 25 milliards de dollars. Mais c'est négligeable par rapport au budget militaire américain. Négligeable. C'était une goutte d'eau. Donc pour les Américains, ce n'était pas un effort considérable. Donc je crois que, enfin en France à l'époque, alors en plus en France à l'époque, les gens protestaient parce que ça remettait en cause le concept de la dissuasion nucléaire que nous avions. Le concept de la dissuasion nucléaire, donc on a mis, le général de Gaulle a mis en place une force de dissuasion, non pas pour attaquer un adversaire, mais pour dire à l'adversaire éventuel, attention. Si vous touchez à nos intérêts vitaux, j'appuie sur le bouton. Donc la force de dissuasion nucléaire, c'est d'abord une arme politique. Et donc avec cette guerre des étoiles, en France, on sentait que les Américains voulaient faire de leurs armes nucléaires non plus une force de dissuasion, mais une arme de bataille. Et ça, c'était inacceptable pour nous. D'abord parce qu'on n'a pas les moyens de se lancer dans une telle aventure, d'autant plus qu'opérationnellement, ça ne tenait pas la route. Donc, vous voyez, c'était plus un concept. Alors, c'était pas que des. Quand on dit la guerre des étoiles, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'y avait pas que des systèmes de satellites, il y avait des engins au sol, il y avait. Enfin, c'était tout, quoi. C'était tout. Mais voyez-le plus comme un élément politique, économique, que comme un élément militaire proprement dit.
Merci bien.
Merci à vous. Bonne soirée.